ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Nous pouvons commencer notre lecture avec le verset 7 jusqu'à la fin de ce chapitre, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent point les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Ce matin, avec vous, j'aimerais commencer une étude, un partage, qui va nous entraîner sur 3, peut-être 4 dimanches, sur le sujet de la délivrance et de la liberté, et les questions de liberté dans ce passage, comme nous l'avons lu, par exemple au verset 12, ainsi qu'au verset 17. La délivrance et la liberté est un sujet qui est présent dans toute la parole de Dieu. Il y a une dizaine d'années, j'ai été confronté suite à certains événements, à étudier de près ce sujet. Et alors, j'ai pris de la Genèse à l'Apocalypse, j'ai lu donc tous les livres de la Bible, en notant à chaque fois sur un cahier tous les passages qui parlaient de la liberté et de la délivrance. Et j'en ai noirci de nombreuses pages. C'est un thème qui est présent dans toute la parole de Dieu et qui nous concerne tous. Un thème qui parfois n'a pas été toujours abordé, surtout dans notre pays de France, par rapport à certaines déviations qu'il y a eu, par rapport à certaines dérives, à certains abus. Et quand nous parlons de délivrance, il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement de la délivrance de possessions démoniaques, la parole de Dieu parle de beaucoup d'autres choses, comme nous le verrons. Cela concerne bien sûr ceux qui ne sont pas encore au Seigneur Jésus et qui ont besoin d'être libérés de certaines choses, de certaines pratiques, de certains liens, mais cela aussi nous concerne les uns et les autres. Nous avons parfois besoin d'être libérés de certaines choses. Nous avons parfois besoin de libérer de certaines erreurs. Nous avons besoin d'être libérés de certaines façons de faire, de certaines ornières dans lesquelles parfois nous nous sommes engagés nous-mêmes. Donc un sujet qui est intéressant, un sujet qui nous concerne et qui fait en sorte que le peuple de Dieu, libéré de certaines choses qui pourraient le retenir, peut entrer aisément dans le plan de Dieu qu'il a prévu pour lui. Ici, dans le contexte dans lequel l'apôtre Paul écrit cette épître aux Corinthiens, il parle du ministère de la mort, du ministère de la condamnation, en contraste avec le ministère de la vie et le ministère de la justice. Le ministère de la mort et de la condamnation, c'est celui de la loi de Moïse, qui a eu son temps de gloire, mais qui n'était que passager, et qui, en fin de compte, était l'ombre des choses à venir. Mais le ministère de la vie, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore, en ce sens qu'il n'est pas simplement passager, mais il nous entraîne les uns et les autres dans l'éternité. Et puis, c'est apporté par Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Or, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alléluia. Merci Seigneur. Nous parlerons au cours de cette étude sur la délivrance et la liberté, du rôle du Saint-Esprit, du rôle important, bien sûr, de la parole de Dieu et, évidemment, de la croix. Le Seigneur est celui qui nous aide à vivre et qui veut que son peuple vive en pleine liberté. Liberté déjà en nous-mêmes, liberté dans l'Église, liberté dans le respect aussi les uns vis-à-vis des autres, que Dieu soit béni. De quelle liberté parle-t-on ? Le monde parle aussi de liberté. Le monde parle de liberté, mais de quelle liberté nous enseigne le monde ? Quand on parle de la liberté à certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, pour eux, la liberté, c'est faire ce qu'ils veulent quand cela leur dit de le faire. Mais est-ce que c'est vraiment cela, la liberté selon la parole de Dieu ? On peut se poser la question, si un jour Pilate se posait la question à savoir qu'est-ce que la vérité, eh bien, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que la liberté ? Certains, aujourd'hui, pensent être libres, mais en fin de compte, sont esclaves de beaucoup de choses. Ils promettent même la liberté à des personnes alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption, esclaves du péché, esclaves de certaines passions, esclaves de certains liens, voire encore pire, esclaves peut-être de certains mauvais esprits. Alors, nous voulons considérer ce que la Bible nous enseigne au sujet de la liberté. La liberté, eh bien, c'est par définition le pouvoir d'agir ou de ne pas agir. Le pouvoir aussi de choisir. Est-ce que je suis libre de choisir ce que je veux ? C'est n'être lié par aucun engagement. Sommes-nous liés, par exemple, par un lien, un engagement quelconque ? On parle le mariage. Je l'ai entendu. Les liens du mariage, c'est un engagement, effectivement. Et à partir du moment, effectivement, qu'on est engagé dans les liens du mariage, quelque chose de nouveau s'engage dans la vie et aussi dans le couple. Et aussi, les deux conjoints ne sont plus libres de se comporter comme ils se comportaient lorsqu'ils étaient célibataires. Comprenez ? Vous êtes d'accord avec moi, ceux qui sont mariés, hein ? D'accord ? On ne se comporte plus en tant que célibataire parce qu'on s'est engagé envers quelqu'un. C'est un engagement d'amour, c'est un engagement de fidélité, un engagement de respect, que Dieu soit béni pour cela. Alors, délivrer, c'est mettre en liberté, justement. Délivrer, c'est se dégager, être détaché, c'est être délivré en payant une rançon. On voit ça aussi dans la parole de Dieu. Être délivré, c'est être délivré d'un poids, d'un péril, d'une obligation, d'une crainte. La délivrance et la liberté sont des thèmes que nous trouvons dans toute la parole de Dieu. Savez-vous le livre où il en est le plus question dans la Bible? Ce n'est pas une question à 1000 euros. C'est dans le livre des psaumes. C'est dans ce livre-là qu'il est le plus question de délivrance. Juste un petit aperçu avec le psaume 34. Les références dans les psaumes sont très très nombreuses. On va juste prendre le psaume 34. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Voilà. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Avons-nous des frayeurs? On continue notre lecture. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Alors là, il n'est pas question du verbe délivrer, puisque c'est le verbe arracher. Mais le principe est le même. On est arraché. Donc on était tenu par quelque chose, mais on a été arraché. Arraché au danger. Le verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'en délivre toujours. Verset 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc on voit que les psaumes, eh bien, nous évoque ce sujet, et quand les psaumes évoquent ce sujet, c'est souvent en relation avec la détresse, avec l'angoisse, avec la mort, avec les frayeurs, avec les malheurs, avec certaines transgressions. Alors, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il n'est pas question de délivrance, par exemple, démoniaque. On ne voit pas ça dans l'Ancien Testament. On ne le voit que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le seul... Je veux dire, épisode qui se rapproche un peu de ça, c'est lorsque David jouait de la harpe et que Saül était animé par un mauvais esprit. Alors à ce moment-là, quand David jouait de la harpe, il était soulagé, mais il n'était pas délivré. Ce n'est pas une délivrance, c'est juste un soulagement. Mais ce que Dieu veut pour nous, bien sûr, c'est une complète délivrance. Mais il n'y a pas que... la délivrance de possession démoniaque, ici il est question de frayeur, il est question d'angoisse, il est question de mort, il est question de malheur. Le Seigneur est celui qui est le grand libérateur, à son nom soit toute la gloire. Bien sûr, il est question aussi de délivrance et de liberté dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, il en est question. Prenons par exemple un texte dans Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, on parlera de la vérité qui nous affranchit. Alors, on voit déjà, il est question d'un affranchissement, de cette mise en liberté. Verset 33, lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendriez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Alors là, ce qu'a dit Jésus a provoqué dans le cœur de ses auditeurs des réactions assez vives. On pourrait lire le reste de ce chapitre 8 qui serait fort intéressant, mais Jésus leur révèle eh bien, en fin de compte, qu'ils sont esclaves du péché. Alors, eux se vanter d'être de la postérité d'Abraham, alors qu'ils étaient esclaves de toutes sortes du péché. Et si on avait lu un peu plus loin, ils ont dit, mais notre père, c'est Abraham. Mais Jésus va leur dire, non, votre père, c'est pas Abraham, sinon vous croirez en moi. Mais il va même leur dire, vous avez pour père le diable. C'est fort ce que Jésus est en train de dire, parce qu'en fin de compte, ils sont menteurs, ils sont même esclaves du mensonge, et il n'y a que la vérité qui peut les délivrer, il n'y a que l'acceptation dans leur vie du Fils de Dieu qui peut les affranchir de cet esclavage du péché. Donc quand le Nouveau Testament parle de délivrance, c'est en rapport avec l'esclavage, bien sûr, du péché, mais aussi il y a des cas de délivrance démoniaque dans les évangiles. Et puis, quand on lit aussi les épîtres de Paul, de Pierre, surtout celle de Paul, il est question aussi de délivrance par rapport au péché. Dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul qui dira, eh bien, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, c'est le mal que je ne voudrais pas faire, que je fais. Donc on voit qu'il évoque la situation de quelqu'un qui n'a même pas la possibilité, qui n'a plus le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, selon la définition. Quelqu'un qui est libre, il peut faire ce qu'il veut. Mais là, quand on ne peut plus faire ce qu'on veut, quand il souhaiterait faire le bien, il veut faire le bien, mais qu'il fait le mal, il est esclave. Esclave du péché, aussi va-t-il s'écrier, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? Donc la question, elle est posée, mais il donne la solution juste après, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Il est celui qui nous délivre, il est celui qui nous délivre de la puissance du péché, il est celui qui nous délivre de toutes sortes de liens, il est celui qui nous délivre des frayeurs, des angoisses, que Dieu soit béni. Quand on parle de délivrance, il y a deux domaines. Il y a la délivrance que Dieu nous accorde par rapport aux choses extérieures à nous-mêmes et par rapport aux choses intérieures à nous-mêmes. Les choses extérieures à nous-mêmes que Dieu nous délivre, ce sont les malheurs, ce sont les épreuves, ce sont ces choses qu'on a vues tout à l'heure dans le psaume 34. Il y a des choses qui sont extérieures à nous. On peut même être délivré de certaines personnes qui nous harcèlent. Ça aussi, hein. Mais Seigneur est celui qui nous délivre de ce genre de personnes. Lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1er. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1er. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. C'est extérieur, délivrer des hommes méchants et pervers, qui pouvaient empêcher Paul d'accomplir sa mission. Des gens méchants, ça existe. Des gens méchants et pervers, ça existe, et qui viennent aussi oppresser le peuple de Dieu. On le voit dans certains pays, mais on le voit aussi dans notre pays. Il y a des gens qui sont si méchants qui empêchent les autres de faire ce qu'ils veulent. Aussi faut-il en faire un sujet de prière pour être délivré de ces personnes-là. Alléluia. Et parfois, c'est difficile à vivre pour certains parce que ces personnes méchantes et perverses se trouvent dans leur lieu de travail. Et à cause de cette situation, ils ont l'impression, lorsqu'ils vont dans leur lieu de travail, d'être, peut-être pas en prison, mais d'être un peu dans la cage au lion. Oui, il faut faire attention à toutes sortes de paroles et à toutes sortes de gestes qu'on pourrait faire, parce que sinon, on va vivre des temps difficiles de la part de ses collègues de travail. Donc, il y a effectivement des gens qui sont méchants. Mais le Seigneur est celui qui veille sur son peuple. Alléluia. Et le Seigneur est celui qui nous délivre des choses extérieure à nous-mêmes. Mais ce qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est des choses qui sont intérieures à nous-mêmes. Parmi ces choses qui sont intérieures à nous-mêmes, il y a les angoisses, il y a les détresses, les frayeurs, comme nous l'avons lu. Et pour revenir par rapport à notre texte d'introduction, il y a ce légalisme qui apporte beaucoup de condamnation à l'intérieur de nous-mêmes, qui apporte le poids de la culpabilité. Il nous faut être libérés de tout cela. Et lorsque nous venons à Christ, lorsque l'Esprit de Dieu fait son œuvre dans notre cœur, que nous sommes renouvelés, alléluia, il est celui qui nous libère de toutes ces choses-là. Que son nom soit béni. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et nous savons que cette parole qui est tirée du livre du prophète Ésaïe est accomplie en la personne de Jésus. C'est Jésus qui est en train de lire ce passage du prophète Ésaïe qui le concerne. L'Esprit de Dieu est sur lui et il a été oint du Saint-Esprit, alléluia. Il y a dans cette parole ici qui nous donne, j'allais dire, une vue générale du ministère de Jésus, de l'aspect de son ministère, d'une description de son ministère, trois références à la délivrance. Alors, il est question d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ça c'est la proclamation de l'Évangile. Il est question aussi, après, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, que Dieu soit béni, parce que c'est encore quelque chose qu'il fait aujourd'hui. Première référence à la délivrance vient juste après, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Après, il est question de redonner la vue aux aveugles. Deuxième référence à la délivrance arrive ensuite, pour renvoyer libres les opprimés. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui sont opprimées, mais le Seigneur les renvoie libres. Que Dieu soit béni. Alors, ça ne paraît pas, mais la troisième référence à la délivrance, c'est le verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous allez me dire, il n'est pas question de référence à la liberté, à la délivrance dans ce passage. De quoi parle Jésus? Qu'est-ce qu'il évoque? Il faut bien savoir que Seigneur Jésus s'adressait ici à des Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament et il fait référence ici à l'année de grâce qui était l'année du jubilé. Or, parmi les réjouissances de l'année jubilée qui arrivait une fois tous les 50 ans, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, comme c'était dans la loi de Moïse, à ce moment-là, il y avait toutes sortes de réjouissances, mais parmi les bénédictions de cette année-là, il y avait la libération des esclaves. Et pas que. Certains prisonniers étaient libérés, amnistiés. C'était donc une période de réjouissance, mais où cette qui était caractérisée par un temps de liberté. Et même ceux qui avaient des dettes étaient acquittés. C'était bien ça, hein? Surtout si on faisait des dettes la 49e année, on se dit, oh, j'ai plus qu'un an hein, à payer. Donc, voilà. Et c'est vrai que quand on est tenu par des dettes, on pourrait parler, hein, ça, le lien de l'argent aussi. Hein, le lien de l'argent. Mais là, donc, les prisonniers, pas tous, certains, étaient amnistiés. Les esclaves libérés et ceux qui avaient été des dettes, les dettes étaient acquittées. Alléluia. Un temps donc de mise en liberté. Donc il y a ici pas moins de 3 références à la délivrance, à la liberté. On voit donc que la délivrance a une part importante dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelons quand même qu'il est venu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Rien que ça déjà. Il nous libère de l'esclavage du péché. Il nous libère, il libère les captifs du péché. Il libère ceux qui sont captifs de passion. Il libère des frayeurs, des angoisses. Jésus est celui qui a toute autorité et en tant que tel, il délivre aussi des personnes de possession démoniaque. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Une des choses, on parlera de différentes choses durant tous ces dimanches, mais j'aimerais avec vous aborder, puisqu'il en a été question dans notre texte d'introduction, que le fait que Jésus nous libère de la condamnation. Il nous libère de la condamnation. Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc déjà, il nous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. On peut s'arrêter là. Merci Seigneur. Ici, on voit que Jésus est venu et que pour tous ceux qui sont en lui, il n'y a plus aucune condamnation. Alléluia. Nous ne sommes plus sous le poids de la condamnation. Nous ne sommes plus tenus sous cette condamnation qui nous rendait esclaves. Qui nous rendait esclaves. Parce que Jésus nous en a affranchis. La loi de l'esprit de vie. Alors on pense à notre passage, bien sûr, d'introduction. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur parce qu'il est celui qui nous a envoyé, eh bien, le Saint-Esprit par lequel nous disons Abba Père. Il a fait de nous ses enfants, les enfants du Seigneur. Que son nom soit glorifié. Il nous libère donc de la condamnation. Lui est celui qui nous absout. Nous sommes maintenant libres. Tout à l'heure, nous avons lu un passage dans Jean chapitre 8. Vous rappelez, où Jésus va dire à ceux qui l'écoutent qu'ils sont esclaves du péché. Quand on lit le contexte dans lequel Jésus dit ça, et c'est fort intéressant, vous savez, il y a une logique dans l'évangile selon Jean, une progression tout à fait remarquable. Au début du chapitre 8, nous avons quoi comme épisode des évangiles? La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Alors, cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère a été apportée à Jésus, déjà, première anomalie, parce que selon la loi, c'est pas seulement la femme qui devait être jugée, mais où était l'homme? Si c'est un flagrant délit, c'est que, bon, comprenez. Déjà, il y a une anomalie. Bon, on va pas s'arrêter là-dessus ce matin. Mais cette femme est apportée. Alors, selon la loi de Moïse, une telle femme doit être lapidée. Ah, ça rigolait pas à l'époque, hein. C'était comme ça. Et donc, et toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il va dire, Jésus? Ils voulaient piéger Jésus par la même occasion. Hein. Que le premier qui n'a point péché jette la pierre contre elle. Alors là, ils ont tous été repris dans leur conscience. Eux qui utilisaient la loi de Moïse pour piéger Jésus et lapider cette femme, ont tous été repris dans leur conscience, car en fin de compte, la loi de Moïse ne justifie personne, elle condamne tout le monde. Elle nous condamne tous, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce que nous enseigne la loi de Moïse. Mais maintenant, nous sommes sous cette loi de l'esprit de vie. Si, à cause du péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, nous sommes gratuitement justifiés en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, ils ont tous été repris dans leur conscience et ils sont tous partis. Il n'est resté que Jésus seul à ce moment-là avec cette femme. Et ils sont où? Ils sont passés où? Qu'est-ce que va lui dire Jésus? Va et ne pêche plus. Il va renvoyer libre cette femme, en fin de compte. Va. Et ne pêche plus. Il y a quand même une recommandation. Et il y a cette délivrance pour cette femme qui ne va pas être lapidée, qui ne sera plus sous le joug de cette loi. Mais il y a quelque chose, une recommandation, c'est ne pêche plus. Or, pour ne plus pécher, il faut qu'elle rompe cette relation illicite d'adultère avec laquelle elle est entrée avec un homme, cette femme. Et il y a probablement des liens sentimentaux dans son cœur. Vous comprenez? Il faut qu'elle... Maintenant, c'est le rôle à elle de se positionner, de se... Et si... Il ne faut pas qu'elle fasse n'importe quoi de cette liberté. Comprenez, tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Maintenant que je suis libre, maintenant que le Seigneur me renvoie libre, je ne vais pas retourner à mon péché. Je vais et ne pêche plus. Or, fort de cette parole, la parole de Dieu, lorsque nous nous positionnons dans cette parole, dans la foi, elle nous libère totalement. Maintenant, c'est son choix à elle. Maintenant que je suis libre, soit je retourne dans mon adultère, soit j'arrête. C'est à nous de choisir. Le Seigneur est celui qui, sur la croix, a porté nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, nous dit la parole de Dieu, et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit par la croix. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que lui a été condamné à notre place. Il a été condamné à notre place pour que nous puissions être affranchis de la loi du péché et de la mort. À lui seul soit toute la gloire. Alors si lui ne nous condamne plus, ne nous condamnons pas nous-mêmes. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Ne vivons plus sous cet esclavage, parce que c'est un esclavage de la culpabilité. Mais si nous nous sentons coupables de quelque chose, venons au pied du Seigneur, demandons-lui pardon et trouvons le pardon dans le Seigneur. Mais ne restons pas sous ce poids de la culpabilité et de l'accusation personnelle. Le Seigneur veut nous en libérer de tout cela. Sinon c'est quoi? C'est ce que l'apôtre Paul appelle encore ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 7, il appelle ça la tristesse selon le monde. Et cette tristesse selon le monde, elle produit la mort. Mais la tristesse selon Dieu, qui est la repentance, elle produit autre chose, elle produit le pardon, la réconciliation avec notre Seigneur. J'aimerais avec vous lire dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Et la loi de Moïse nous condamne, notre cœur nous condamne. Mais n'oublions pas une troisième chose, c'est que le diable aussi. Il est écrit ici qu'il est l'accusateur des frères. Il est appelé ainsi dans la parole de Dieu. Il est appelé l'accusateur des frères. Et il est écrit encore qu'il les accusait devant Dieu jour et nuit. Voilà ce que le diable fait à notre égard. Il nous accuse devant Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un avocat. Alléluia. Nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Amen. Je dis ceci parce que des fois, nous ne réalisons pas combien le combat spirituel est intense. Déjà, nous avons affaire à notre propre cœur et parfois nous nous accusons à tort. Nous nous condamnons là où Christ nous a pardonné. Mais le diable est un menteur. Et il sait qu'ici, s'il arrive à ce que ces accusations entrent dans le cœur d'un enfant du Seigneur, il ne sera pas heureux dans sa foi. Il ne sera pas épanoui dans sa foi. Mais il va être tenu, lié par un poids d'accusation. Et ça, je l'ai vu tant de fois. Tant de fois. De la part de certains frères et sœurs et qui croulent sous le poids de l'accusation du diable. Ils se torturent le cœur avec toutes sortes de culpabilité. Mais rappelons-nous ce pourquoi Jésus est venu à la croix. Le verset 11 nous dit « Ils l'ont vaincu ». Oui, nous pouvons vaincre le diable. Alléluia. Et toutes ces paroles d'accusation qui nous tiennent, qui nous empêchent d'entrer dans le plan de Dieu pour nos vies, qui nous lient, qui nous empêchent de vivre notre foi normalement. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Et nous l'avons rappelé ce matin en prenant la Sainte Cène. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est l'expression, la confession de leur foi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Il est celui qui nous libère des accusations du diable. Que son nom soit glorifié pour ce qu'il fait en nous. Et il veut nous en libérer de tout cela. Il veut nous en libérer. C'est pour ça qu'il est dit que la vérité nous affranchit, parce qu'elle nous fait comprendre tous les mensonges du diable à notre égard, qui vient accuser de notre conscience. Mais la vérité de Dieu, elle nous affranchit. Que son nom soit glorifié. La vérité sur nous-mêmes, la vérité aussi doctrinale, parce qu'on peut être tenu par des liens d'hérésie, des liens d'erreur doctrinale, mais le Seigneur est celui qui nous en libère. J'aimerais lire un dernier passage pour conclure ce premier volet sur ce sujet. Dans 1 Corinthiens 15, tout à l'heure, Jonathan nous citait aussi ce passage, mais j'avais prévu de le lire en conclusion, donc on va le relire. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 54, 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est dit ici que la puissance du péché, c'est la loi, et on se souvient de ce qu'on a lu tout à l'heure, parce que la loi nous condamne. La loi nous condamne. C'est le ministère de la mort. Ici, il est dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. À quoi sert un aiguillon? Un aiguillon, c'est un genre de bâton avec une pointe au bout. On s'en sert pour faire avancer les bœufs, notamment dans la direction où on veut qu'ils aillent. Et s'ils s'en écartent, on les pique sur le flanc, là. Et donc, le bœuf, donc, il marche tout droit, hein. Parce que sinon, il peut pas regimber contre les aiguillons, hein. Parce que ça le pique. Comprenez? Et c'est ainsi, en fin de compte, l'aiguillon de la mort. C'est quoi l'aiguillon de la mort? C'est le péché, il nous conduit tout droit dans la mort, le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mort a perdu sa victoire. Nous étions tenus par le péché qui nous entraîne tout droit dans la mort. Nous étions même esclaves de la mort, comme il est écrit ailleurs. Nous étions esclaves de tout cela, esclaves peut-être même de la peur de la mort. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ l'a englouti. Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il a vaincu tout cela. Il a vaincu les puissances de ténèbres à la croix. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous libères de cet esclavage de la loi, tu nous libères de cet esclavage du péché, tu nous libères de cet esclavage de la condamnation, parce qu'en toi nous avons tout pleinement et tu nous donnes une complète victoire. Merci Seigneur pour ton pardon. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on est pardonné, on est libre. On est acquitté. Alléluia. C'est une grâce que nous accorde le Seigneur. Bien sûr, nous ne voulons pas faire de cette grâce n'importe quoi. Nous ne voulons pas faire de la liberté un prétexte pour vivre dans la méchanceté. Nous ne voulons pas, bien sûr, sous prétexte de liberté, faire n'importe quoi. Mais nous voulons, dans cette liberté, être à la gloire de notre Seigneur, que son nom soit glorifié. Merci Jésus pour ce que tu as fait dans nos vies et ce que tu continues à faire, en fin de compte. Ce que tu continues à faire dans notre cœur, à lui seul soit toute la gloire. Amen.